à l'écoute de VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La dépouille du cardinal Laurent Mossengo est arrivée hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, devant une foule en pleurs. Il est décédé le 11 juillet près de Paris. Nous y reviendrons avec Nathalie Barge. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a assisté hier aux opérations de nettoyage après les violences et pillages qui ont fait plus de 212 morts la semaine dernière. Michel Joseph fera le point. Au Nigeria, 13 policiers ont été tués dans une embuscade tendue par des voleurs de bétail dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, a annoncé tard hier soir la police. L'Algérie a rappelé hier son ambassadeur au Maroc pour protester contre des propos du représentant marocain aux Nations Unies défendant le droit à l'autodétermination de la Kabylie en réponse au soutien d'Alger aux indépendantistes du Sahara occidental qui combattent le Maroc. L'Égypte a libéré hier 6 militants, dont la journaliste et blogueuse Esra Abdel Fattah, l'un des symboles de la révolution de 2011 qui a abouti à la chute de Hosni Moubarak. Quelques jours auparavant, les États-Unis avaient fait part de leurs préoccupations sur les violations des droits humains en Égypte. Les rebelles du Tigré ont affirmé hier avoir mené des opérations visant des forces gouvernementales dans la région Afar, ouvrant un nouveau front dans leur lutte contre le gouvernement éthiopien. La quasi-totalité des restrictions liées à la pandémie de coronavirus a été levée en Angleterre ce lundi, malgré une flambée des contaminations qui inquiète nombre de scientifiques et de responsables politiques. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, cas contact et à l'isolement, a appelé hier à la prudence face au variant Delta. À Tokyo, deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football ainsi qu'un membre de l'encadrement installé dans le village olympique ont été testés positifs au COVID-19 hier, faisant craindre un foyer de contamination à quelques jours de la cérémonie d'ouverture. Le médecin-chef des États-Unis, le docteur Vivek Murthy, a déclaré hier sur CNN être profondément préoccupé quant à ce qui attend le pays à l'automne, parce que, selon lui, on assiste à une hausse des nouveaux cas, surtout chez les personnes non vaccinées. La chancelière allemande Angela Merkel a mesuré dimanche la dévastation surréaliste laissée par les inondations en Europe qui ont fait au moins 191 morts en Allemagne et en Belgique, avec de nombreuses personnes encore portées disparues. Au moins 34 personnes ont été tuées dans la banlieue de Bombay, en Inde, lorsque des bâtiments se sont effondrés, emportés par des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson. Des militants, des journalistes, dont une trentaine en France et des opposants du monde entier, ont été espionnés grâce à un logiciel mis au point par l'entreprise israélienne NSO Group, selon une enquête publiée hier, qui renforce les soupçons pesant de longue date sur cette société. L'Afghanistan a rappelé hier son ambassadeur et d'autres hauts diplomates en poste à Islamabad au Pakistan à la suite de l'enlèvement de la fille de son représentant au Pakistan et tant que n'ont pas disparu les menaces sur leur sécurité. Le chef des talibans a répété ce dimanche rester résolument favorable à un règlement politique en Afghanistan, mais un nouveau round de négociations avec des représentants du gouvernement afghan à Doha s'est achevé sans progrès significatif en pleine offensive des insurgés. Pour la première fois, l'entreprise Karma, créée en 2008, a vendu un exemplaire de son cœur artificiel total. Il a été implanté sur un patient en Italie, afin de servir de relais dans l'attente d'une greffe, une étape importante annoncée ce lundi par la MedTech française. En Arabie Saoudite, des fidèles musulmans ont afflué ce dimanche dans la vallée de Mina, à environ 5 km de la ville sainte de la Mecque, pour la suite du grand pèlerinage très réduit pour la deuxième année consécutive en raison du Covid. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations, la dépouille du cardinal Laurent Mossengo, influent archevêque émérite de Kinshasa, a été rapatrié hier dans la capitale congolaise où prélats officiels et une foule en larmes sont venus l'accueillir. Le cardinal Mossengo, qui a joué un rôle politique de premier plan en République démocratique du Congo, est décédé le 11 juillet près de Paris à 81 ans. Le point avec Nathalie Barge.
Le corbillard est entré en fin d'après-midi dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le cercueil était accompagné par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, des religieux et officiels dont le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que de nombreux fidèles. 3000 policiers ont été mobilisés selon les autorités. Dans son mot de condoléances à la fin de la messe, le gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a évoqué un moment douloureux. Porté par 8 prêtres, le cercueil a été réintroduit dans le corbillard sous le coup de la fanfare, au rythme d'un cantique marial repris en chœur par la foule. Laurent Mossengo fut l'une des voix critiques à l'égard des régimes qui se sont succédés depuis l'époque de Mobutu Sese Seko jusqu'à nos jours. Ordonné cardinal par Benoît XVI en 2010, il avait cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Fridolin Ambongo en 2018. Le pape lui a rendu hommage, évoquant le courage d'un homme épris de justice, de paix et d'unité très impliqué dans la vie politique et sociale de la République démocratique du Congo. Le cardinal Mossengo avait été un des proches conseillers du pape François.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a assisté hier aux opérations de nettoyage après les violences et pillages qui ont fait plus de 212 morts la semaine dernière. Ce dimanche, les Sud-Africains célébraient Mandela Day, une occasion de consacrer du temps à des actions communautaires. Michel Joseph fait le point.
Lors de sa visite dans un centre commercial dévasté à Soweto, M. Ramaphosa a déclaré qu'un examen approprié des événements récents serait effectué. Les soutiens de l'ancien président Jacob Zuma sont accusés d'avoir fomenté le chaos que M. Ramaphosa a qualifié de tentative visant à déstabiliser le pays. Les premiers incidents ont éclaté après l'incarcération de M. Zuma, condamné à 15 mois de prison pour avoir refusé de témoigner devant une commission anticorruption. Son procès pour corruption doit reprendre ce lundi sous haute tension. Le ministre de la Police, Bekki Sélé, a mis en garde contre les actes d'autodéfense après des incidents d'ordre racial dans le township de Phoenix, proche de Durban. Des policiers vont y être déployés pour enquêter sur la mort suspecte de 20 hommes. Dans la province du KwaZulu-Natal, la pluie touchée, l'accès aux produits de première nécessité est devenu préoccupant et les plages ont été fermées autour de Durban après le déversement d'un produit chimique issu d'une usine incendiée.
Au Kenya, 13 personnes ont été tuées et 24 blessées dans l'explosion d'un camion-citerne accidenté qu'elles étaient en train de siphonner, a indiqué la policière. De nouveau, Nathalie Barge.
12 cadavres ont été dénombrés sur place et une personne est morte des suites de ses blessures à l'hôpital, a indiqué la police du comté de Siyaya, où l'explosion s'est produite samedi soir. 24 personnes ont été hospitalisées et plusieurs sont portées disparues. Les habitants de la zone se sont précipités avec des jerrycans pour siphonner l'essence du camion-citerne qui s'est renversé après une collision avec un autre véhicule près de Malanga sur la route reliant Kisumu et la frontière ougandaise. Les premiers arrivés sur place ont rempli leurs jerrycans et sont repartis, mais quand une deuxième vague d'habitants a voulu en faire de même, le camion a explosé. En 2009, 122 personnes avaient été tuées près de Molo dans l'explosion d'un camion d'essence alors qu'elles s'étaient massées autour du véhicule accidenté pour recueillir du carburant.
La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
Les jeunes start-up, innovateurs et étudiants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo ont 2 semaines pour déposer leur candidature au concours du Salon de l'énergie et du développement durable. En jeu, des financements jusqu'à 5 millions de francs CFA, des formations et de l'accompagnement pour tout projet énergétique hors réseau innovant. Soit des solutions pour éclairer les foyers non raccordés ou des solutions pour une meilleure efficacité énergétique. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a publié ses prévisions 2022 pour le marché pétrolier. L'organisation dit s'attendre à ce que la demande grimpe de 3,3 millions de barils par jour l'année prochaine pour atteindre une moyenne de 100 millions de barils par jour, soit un retour au niveau de la demande en 2019. L'OPEP se dit rassurée des mesures de relance qui devraient stimuler la consommation de pétrole. Lors d'une visioconférence de l'OMC portant sur la pêche, Aminata Assomediata, la ministre sénégalaise du commerce et des PME, a réitéré l'engagement de son pays en faveur d'un accord flexible sur l'élimination des subventions à la pêche. Pour la ministre, il faut une pêche responsable, mais il faut protéger la pêche artisanale et les pêcheurs traditionnels. Les pays en voie de développement doivent bénéficier d'un traitement spécial, a-t-elle dit.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Élisée Compatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football à la une, l'Afrique du Sud sort vainqueur de la COSAFA Cup qu'elle a organisée.
Oui, les Bafana Bafana sont venus difficilement à bout du Sénégal hier après la séance des tirs au but 5 à 4. Les deux équipes n'ont pas pu se départager à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Les Sud-Africains remportent ainsi leur 5e titre dans cette compétition. Précisons que le Sénégal était invité à ce tournoi mettant aux prises des équipes de la zone de développement de l'Afrique australe. Le sélectionneur Joseph Koto, au micro d'Amédine Sy, est satisfait de ses joueurs malgré la défaite.
Vraiment, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très fier parce que déjà, on n'a fait que 2 semaines de regroupement, c'est-à-dire 10 jours. On a réussi à mettre en place une équipe vraiment qui nous a valu énormément de satisfaction. Donc, le match d'aujourd'hui, vous avez vu, c'était un match où on pouvait gagner comme eux, ils ont gagné. On ne peut pas être content du résultat parce qu'on n'a pas amené la coupe, mais quand même de la prestation des joueurs. Vous savez, dans ces zones-là, c'est ces équipes-là qui jouent en équipe première parce qu'ils n'ont pas beaucoup de professionnels. Donc c'était très 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 dur, mais ils s'en ont sortis. Moi, je remercie les jeunes d'abord parce qu'ils ont voulu honorer le Sénégal et puis ils ont donné le maximum d'eux-mêmes.
Au niveau des clubs, à présent, est la décima pour Al Ahly du Caire en Ligue des Champions.
Le géant du Caire s'est imposé non sans peine en finale disputée à Casablanca au Maroc face à Kaizer Chiefs 3 à 0. Les Égyptiens n'ont laissé aucune chance aux Sud-Africains, surtout en seconde période. Tenus en échec à la pause, ils ont profité de leur supériorité numérique au retour des vestiaires pour prendre le dessus et inscrire 3 buts en 20 minutes grâce à Mohamed Chérif, Magui Kafcha et Amr Soleya. Al Ahly conserve donc son titre et s'installe un peu plus au sommet du foot africain avec son entraîneur, le Sud-Africain Pisso Mosimane, qui a remporté lui sa 3e Ligue des Champions, 2 avec le club égyptien et la première en 2016 avec le Mamelodi Sundowns.
Après l'organisation réussie de la finale de la Coupe de la CAF, le Bénin se met au diapason des grandes nations. Dans cette perspective, le pays organise le West African Challenge Cup 2021, me dites-vous Élisée.
Oui, avec au total 8 équipes qui sont attendues pour batailler d'arrache-pied du 14 au 22 août 2021 en terre béninoise. Esaü FC du Grand Popo, club champion en titre du Bénin, et son dauphin, les Buffs du Bogou, seront à ce rendez-vous pour préparer leur future sortie. Dans le but de se relever au monde par le sport, le Bénin, pour une fois encore, sera sous les feux des projecteurs. Ceci à travers ce tournoi amical international de la pré-saison. Après l'étape réussie de la finale de la Coupe de la Confédération, le Bénin se veut donc être désormais une terre d'hospitalité et un pôle d'attraction des grands événements sportifs en Afrique. 6 clubs du continent sont donc attendus pour 8 jours de compétition. Il s'agit de Oroya de Conakry, l'AS Sonabel du Burkina Faso, l'Union sportive de la Garde nationale du Niger, Arta Sola du Djibouti, Asofok du Ghana et l'AS V-Club de Kinshasa. Le coup d'envoi sera donné le 14 août prochain.
Basketball à présent avec la finale NBA. Milwaukee s'impose à Phoenix et prend une option pour le titre.
Exactement, Idrissa. Les Bucks ont retourné un match mal engagé pour s'imposer 123-119 à Phoenix lors du cinquième match de cette finale et s'offrir la possibilité de décrocher le titre demain mardi chez eux. Pour signer ce troisième succès d'affilée, il leur a fallu contenir un dernier assaut furieux des Suns qui se sont même offert la balle de match à 29 secondes de la fin du temps réglementaire avec un point de retard. Déjà meilleur joueur de la soirée, l'arrière Jrue Holiday a alors signé l'action du match, volant la balle dans les mains de Devin Booker pour ensuite servir sur contre-attaque Giannis Antetokounmpo qui s'est envolé pour le dunk décisif. C'est la première fois depuis le début de la série qu'un des deux finalistes gagne à l'extérieur. Il faudra aussi s'imposer chez les Bucks pour s'offrir un éventuel septième match à domicile à Phoenix.
Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seguidia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Rwandais de Washington et des environs ont célébré samedi soir leur 27e fête nationale. Malgré une forte pluie, ils étaient nombreux à se rassembler à Gettysburg, dans le Maryland, à la résidence de l'ambassadeur rwandais dans la capitale américaine. Eric Manirakidza a suivi cet événement pour vous. Son reportage.
Journée de joie pour la communauté rwandaise de la région de Washington qui a célébré la journée de libération nationale sans toutefois oublier les milliers de personnes tombées sur le champ d'honneur pour arrêter le génocide de 1994. La présidente de la communauté rwandaise de Washington, Catherine Wivanga.
Aujourd'hui est un jour important pour nous Rwandais. Le FPR a pu arrêter le génocide et aujourd'hui encore, il nous donne l'espoir d'un avenir nouveau, d'un Rwanda nouveau. Le Rwanda que nous savons aujourd'hui, le Rwanda dont nous sommes fiers et dont nous pouvons être fiers. Le Rwanda qui est vraiment l'icône de l'Afrique, le Rwanda que nous sommes fiers de présenter à nos enfants. Vous savez que nos héros ont laissé un héritage. J'espère qu'en tant que Rwandais, nous serons capables de laisser le même héritage à nos enfants et qu'ils seront capables de faire de même.
Kaneza habite en Virginie. Elle a dû braver la pluie pour manifester sa joie aux côtés d'autres compatriotes.
En tout cas, c'est une bonne chose parce que je suis rwandaise et très fière. Et j'aime mon pays. Et je suis fière parce que il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour nous. Et je suis là pour célébrer. Donc je suis contente. C'est ça.
La représentante permanente de l'Union africaine à Washington s'est jointe à la communauté rwandaise en vue de célébrer cette journée spéciale selon elle. Ambassadeur Hilda Suka Mafuze.
For me, it's a special day, and every country in the continent is at the same.
Pour moi, c'est un jour spécial, et chaque pays du continent est au centre de mon cœur. Et avoir le Rwanda qui joue aussi un rôle important, qui est à l'avant-garde pour faire en sorte que le continent devienne l'Afrique que nous voulons. Je suis ici pour assister à la célébration du 27e anniversaire du Rwanda, un pays que le président Paul Kagame a relevé de sa chute et a fait la différence pour s'assurer que tout le monde soit acteur. Et aujourd'hui, sur le continent, nous sommes fiers du Rwanda en raison de ce que les Rwandais ont accompli.
Mathilde Mukantabana, ambassadeur du Rwanda à Washington, a exhorté les Rwandais présents à véhiculer cette image au-delà des frontières du pays des mille et une collines. L'ambassadeur Mukantabana a par ailleurs révélé que beaucoup d'Américains sont en train de demander la nationalité rwandaise. Des danses traditionnelles ont agrémenté cette célébration dans une ambiance « mon enfant », des chants et danses véhiculant les valeurs traditionnelles rwandaises.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, la campagne intensive de vaccination lancée le 7 juillet dernier et initialement prévue pour prendre fin 5 jours plus tard, a dû être prolongé jusqu'au 17 juillet. L'objectif initial du ministère de la Santé a été d'injecter le vaccin à au moins 200 000 personnes pendant ces 11 jours de vaccination. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules-Ntap.
Au terme des 4 premiers jours de campagne, les statistiques ont fait état de plus de 100 000 personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin et de 838 autres à avoir pris la seconde. Le gouvernement a associé les leaders d'opinion à la sensibilisation du public pour la vaccination contre le Covid-19. Cabral Libi, député de l'opposition.
Si à un moment, dans un pays, on se rend compte que pour éradiquer une maladie ou pour contenir une maladie, il faut que tout le monde soit vacciné, ben, on peut arriver à cela. Le débat est-ce que les vaccins qui existent, qui ont été fabriqués à la va-vite, n'ont pas d'effet secondaire? Et apparemment, aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui soit morte.
Les équipes mobiles et fixes du programme élargi de vaccination ont été déployées sur l'ensemble du territoire national afin d'accroître le nombre de personnes vaccinées contre le Covid-19. La campagne ouverte aux plus de 18 ans a eu aussi comme cible spécifique le personnel médical.
C'est important que le personnel de santé soit vacciné.
Malachi Madaouda, ministre de la Santé publique.
Sous votre sujet, vous avez compris qu'il y a une obligation déjà de vaccination du personnel de santé et que celui qui n'est pas vacciné n'aura pas de salaire. Je crois que c'est important que nous n'arrivions pas là, mais que spontanément, que nous puissions nous faire vacciner.
Jusqu'ici, un traitement global et gratuit est offert aux patients atteints de Covid-19 dans les centres spécialisés. Mais cette mesure pourrait être revue, prévient le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda.
La réflexion se poursuit au niveau du gouvernement. On se pose la question de savoir, pour quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, comment le prendre en charge lorsqu'il tombe malade gravement et qu'il consomme 15 à 20 litres d'oxygène par jour.
Le conseil scientifique recommande qu'au moins 5 millions de personnes soient vaccinées si le Cameroun veut atteindre l'immunité collective. Cependant, le gouvernement se prépare à parer dès novembre prochain les éventuels ravages d'une troisième vague de Covid-19 avec le variant Delta. Ousmane Diaby, chef de la division des études et des projets au ministère de la Santé publique.
Des centres d'isolement qui n'existaient pas bien avant, nous en avons construit 13 répartis dans les 10 régions du Cameroun.
À ce jour, les populations se sont fait le plus vacciner dans les régions de l'extrême nord, du centre et de l'ouest, selon le programme élargi de vaccination. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, Anjamina Otiad sur 93.1 FM.
Au Tchad, le premier ministre de la transition, Albert Paimi Padake, donne un délai d'une semaine aux différentes corporations pour choisir leurs représentants au sein du comité d'organisation du dialogue national inclusif. De leur côté, les forces vives de la nation exigent la tenue d'une conférence nationale souveraine inclusive à l'image de celle tenue en 1993. De N'Djamena, André Kotmadjingar.
Les composantes des forces vives de la nation ont moins de 15 jours maintenant pour se prononcer sur leur participation ou non au comité de dialogue national inclusif, selon la communication du premier ministre de transition, Paimi Padake Albert.
Je voudrais, avec toute l'humilité requise, vous demander de placer votre curseur sur l'idée de la République et sur elle seule, au moment de faire le choix de vos représentants au sein du comité d'organisation du dialogue inclusif.
Une sortie médiatique qui ne rassure pas les acteurs politiques et de la société civile.
Le dialogue tel que voulu par le CNT, que l'on se prépare à servir par la force aux Tchadiens, ne sera inclusif que de nom et certainement pas souverain.
Bédoumra Cordier, porte-parole du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin 2021. Pour lui, il faut que les textes mettant en place le comité ad hoc et le conseil national de transition soient annulés.
Si on va de l'avant avec ces deux décrets, encore l'instabilité, c'est encore la division du Tchad, c'est encore l'absence de paix. Donc il faut suspendre ces deux décrets et aller vers une conférence où les Tchadiens réunis ensemble vont décider de leur avenir.
Pour l'enseignant chercheur Dr Sitak Yumbatina Beni, deuxième vice-président du parti Les Transformateurs, le gouvernement de transition est en train de jouer au dilatoire.
Chez nous, si on ne voit pas les garanties que nous allons avoir une réunion sérieuse avec des gens sérieux, dans des procédures sérieuses, personne ne perdra même son temps. D'ailleurs, en tant que juriste, je dois vous dire que même ce dialogue-là qui est en train de se préparer là n'a aucun fondement juridique. Également, on a insisté qu'il y ait un facilitateur international. Parce qu'il ne faut pas être juge parti en ce moment, gouvernement actuel. C'est pas possible.
Maître Max Luangar, coordonnateur des actions citoyennes, estime que le problème n'est pas sémantique, mais plutôt la volonté des différents acteurs d'aborder les questions qui fâchent.
Vous pouvez l'appeler une table ronde, une table carrée, rectangle, pourvu que tous les Tchadiens se retrouvent rassemblés. Mais nous pensons que l'expérience est le bâton de l'aveugle. Et nous avons eu cette expérience de la conférence nationale souveraine. Et nous disons très clairement que le dialogue qui est annoncé là doit revêtir les caractéristiques d'une conférence nationale souveraine.
L'ambassadeur de la paix auprès de la francophonie et ancien ministre des droits de l'homme, Abdraman Dasnabaï, appelle les acteurs politiques à la retenue.
C'est un faux débat. Je sais que quand on s'est retrouvé à la première conférence, qui fait référence aujourd'hui, là, il nous a fallu 15 jours pour admettre que la conférence doit être souveraine. Donc, il ne faut pas perdre son temps à discuter.
André Godumadingar, Ndjamena, pour VOA Afrique.
C'est demain mardi que la communauté musulmane du Mali célèbre la fête de Tabaski. À 24 heures de ce qu'on appelle la grande fête, certains secteurs sont en effervescence. Il s'agit entre autres de celui des couturiers, des coiffeurs et des vendeurs de moutons. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Communément appelée la fête du mouton, la Tabaski est l'occasion pour les musulmans d'immoler un mouton à condition d'avoir les moyens. Mais compte tenu des réalités sociales, aujourd'hui, chaque chef de famille s'efforce, souvent au prix de 1000 sacrifices, pour se procurer cet animal. Ici, au marché à bétail de Faladié, en commune 6 du district de Bamako, ça marche fort entre vendeurs et potentiels acheteurs. La raison, le prix est élevé, selon Mamadou et Ali, tous venus acheter le mouton.
Il faut dire que cette année, contrairement aux autres années, aux années passées, le mouton coûte excessivement cher. Des moutons qu'on pouvait avoir à 75 000, on voit aujourd'hui que le prix est allé jusqu'à 200, 150 000, donc c'est très compliqué. Puis, il faut dire que les Maliens sont plus bâtis et personne n'a le moyen nécessaire pour pouvoir acheter le mouton qu'il faut.
Je suis venu, j'ai trouvé mon mouton à 95 000 francs. Bon, ici, le marché n'est pas trop au rendez-vous parce qu'il n'y a pas assez de moutons ici.
Vendeur dans ce marché à bétail depuis plusieurs années, Issouf reconnaît que les prix ont augmenté. Cela est dû, selon lui, aux conditions d'acheminement des animaux vers la capitale et de la crise sécuritaire au nord et au centre du pays qui a fait fuir de nombreux éleveurs. C'est vrai, les prix des animaux ont augmenté, mais cela est dû à la crise, surtout au centre du pays. À cause de la crise, beaucoup d'éleveurs peuls ont dû fuir leur village. Et en avant, ils ont amené les animaux. C'est très difficile d'acheminer les animaux de nos zones à Niamakoro, un quartier de la commune 5. Boubacar Moro, couturier, appuie frénétiquement sur la pédale de sa machine vieillissante. Il a plusieurs commandes de clients sous la main qu'il doit finir. Contrairement aux vendeurs de moutons qui se plaignent du manque de clients, lui d'y tirer son épingle du jeu. Vous savez, ce n'est pas du tout facile actuellement compte tenu du contexte. Chacun a sa chance et il arrive que certains ont des clients et d'autres pas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai des clients, j'ai des commandes et je m'efforce à les honorer. S'il y a un autre secteur qui est en pleine effervescence à 24 heures de la fête de Tabaski, c'est bien celui des coiffeurs. Les salons de coiffure sont littéralement pris d'assaut par les femmes voulant se faire belles pour l'occasion.
On a commencé tôt et c'est un peu coincé. Pas trop d'état, mais on fait avec la clientèle le rendez-vous. En ce moment, ils sont déjà là. Mais je sais qu'à la fin de la journée, ça va être encore plus rempli. Maintenant, ce sont beaucoup de tresses, des tirés et puis souvent des perruques.
À côté de ces différents secteurs, celui du transport ne connaît pas de répit. Ils sont nombreux à quitter la capitale pour aller fêter avec leurs parents au village et dans la région. Cette fête, comme toutes celles depuis 2012, sera une autre occasion pour les musulmans maliens de prier pour un retour définitif de la paix au Mali. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en monde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonjour.